Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis Séverine Garnier, journaliste spécialisée dans la musique classique et j'aurai le plaisir ce soir de poser quelques questions à Thibaut Covin. Donc merci, vous êtes super nombreux, c'est très agréable et ce qui prouve l'amour de cette région pour toi, amour réciproque. Hein. Il faut dire que tu aimes bien retourner sur tes terres natales.
Tout à fait, bonjour, très heureux de vous revoir. En effet, je suis très attachée à Bordeaux. Je suis né ici.
Tu es né dans la ville ou tu es né dans la...
J'ai grandi à Bruges-le-Bouscat, pile à la frontière. Mais je venais à Bordeaux toujours, bien sûr, et j'ai fait mes études au lycée Camille Julian ainsi qu'au conservatoire de Bordeaux.
Mais tu faisais déjà une classe alternée musique tu...
Tout à fait, ouais. J'ai d'abord commencé la guitare avec mon cher papa qui est là, qui est lui-même guitariste... passionné, névrosé de notes, qui ne fait que ça toute la journée du matin au soir, chaque jour de l'année, depuis que je le connais. Et donc, il m'a tendu une guitare tout petit, après que j'ai appris à parler, à marcher, de manière très naturelle. Et j'ai ensuite intégré le conservatoire de Bordeaux, où en effet, j'ai suivi un enseignement double, un peu comme musique-études, comme sport-études. Donc, j'avais des cours traditionnels au lycée Camille Julian, non loin d'ici. Et l'après-midi, j'allais au conservatoire avec mon vélo et je me chronométrais. J'essayais tous les jours de battre mon record, qui était de 6 minutes 38.
Oui, c'est tout à fait ton genre. Mais alors, on va commencer. Moi, ce qui m'intrigue, c'est la guitare, le tout début. La première guitare que tu as grattée, c'était celle de papa discrètement ou c'est celle qu'il t'offre, dont tu parlais à l'instant? Quand tu commences un peu à avoir 30 ou 40 centimètres de bras.
Bizarrement, j'ai pas de souvenir du premier morceau que j'ai joué, de quand j'ai commencé, comment ça s'est passé. J'ai vraiment aucun souvenir, c'était tellement naturel. Un peu que je parle français parce que je suis né en France et je fais de la guitare parce que je suis né sous les notes. C'est un peu ce sentiment. J'imagine que ça devait être la sienne, que je devais essayer des choses. Mais la musique était vraiment omniprésente. Il jouait toute la journée, comme je disais. Et puis tout notre entourage familial était aussi des musiciens. Eux, plus vers le jazz expérimental, la musique étonnante, inclassable et bizarre. Et donc voilà, du matin au soir, j'entendais ces musiques. Et puis j'imagine qu'un jour, j'ai essayé d'en faire.
Et justement, le classique là-dedans, ça a quoi comme place si on faisait de la musique un peu expérimentale? J'imagine que Scarlatti et consoeurs, confrères, ce n'était pas forcément le pied d'appel.
Oui, je parle pour mon père, parce que c'était un peu le départ de cette aventure, c'est, de la mienne en tout cas, c'est que... Je pense que c'est son amour pour la guitare qui l'a mené vers la guitare classique. Lui, au départ, était plus un rocker branché parisien, puis il a bifurqué vers le jazz. Et l'amour de l'instrument, peut-être plus que la musique en soi, l'a guidé vers la guitare classique, qui est peut-être la plus complexe, la plus riche. Et donc, naturellement, il m'a tendu celle-là, mais sans penser musique classique, plus en pensant timbre, possibilité qu'offrait cet instrument classique, plus que la guitare électrique ou les autres types de guitares. Et donc, moi, j'ai commencé à jouer avec celle-là. Et puis, ce son, ce rapport parfaitement charnel, c'est un peu comme avec la guitare classique, j'ai le sentiment qu'on sculpte les notes. Il n'y a pas de passerelle entre l'interprète et la musique. Le violoniste, par exemple, a son archet, le pianiste a ce meuble merveilleux, mais le guitariste, il n'y a rien du tout. Il touche la note avec son doigt. Et ça m'a tout de suite plu. J'ai l'impression de chanter quand je joue. Mais après, c'était plus ce rapport-là qui me plaisait plutôt que le fait de jouer du Scarlatti ou de la musique d'aujourd'hui.
Alors les voyages, tu adores, hein. Mais tu as toujours rêvé de voyager. Petit, tu avais envie de quitter cette ville de Bordeaux ou c'est venu comme ça?
C'est à cause de Tintin, je pense. Non, c'est à cause de Tintin.
Donc tu as gardé le pantalon d'ailleurs.
Donc j'ai gardé le pantalon. J'ai coupé les cheveux, mais je l'ai eu longtemps. Non, c'est à cause de Tintin, c'est à cause de mon grand-père aussi, qui était un voyageur, qui partait avec des petits coucous en avion, des tout petits avions, et je le voyais partir. Ça m'a toujours fasciné. Ouais. J'ai toujours envie de voir ce qui se passait ailleurs. Ouais. Et aujourd'hui, la vie que j'ai de concertiste implique une vie de nomade. Et, Et ça s'est imposé à moi, un peu comme la guitare quand j'étais tout petit. On parlait tout à l'heure voilà, de la manière dont j'avais commencé ce chemin. Et les voyages se sont un peu imposés à moi de la même manière. Et j'en étais très heureux, puisque c'était une forme de rêve d'enfant, de pouvoir aller jouer comme ça, porter mes notes au bout du monde. Et puis cette vie de... J'ai pas de maison, je voyage toute l'année, je vis dans les hôtels et les salles de concert. Et j'ai appris à l'aimer. Et aujourd'hui, je la protège beaucoup parce que j'y tiens énormément.
Oui, ça fait vraiment partie de ton mythe. Le fait de ne pas avoir de maison reste quand même toujours... On se dit que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a bien un endroit où tu as un carton d'affaires d'enfance. Où sont tes carnets de notes?
Non, j'aime semer des objets auxquels je tiens un peu partout, chez des amis, dans des coins du monde. Et quand je repasse dans ces endroits, que je revois ces amis chers et que je retrouve les petits objets que j'ai laissés, ça me plaît beaucoup. Mais je n'ai pas d'endroit vraiment... du tout à moi. J'aime cette idée de toucher un peu à la liberté, ouais. Et de se sentir chez soi partout. Finalement, comme je n'ai pas plus d'affaires quand je suis à Bordeaux, à Hong Kong ou à Los Angeles, le soir où je dors à Los Angeles, je suis un Américain.
Et alors, dans toutes ces villes, je crois, quand l'occasion se présente, tu rencontres des guitaristes ou, j'allais dire, des musiciens qui jouent des cousins de la guitare. Ça, c'est vraiment... C'est un instrument qui unit énormément de traditions musicales.
Oui, clairement, la guitare est l'instrument le plus joué dans le monde et le plus décliné aussi. Et donc, du coup, j'ai cette chance de, où que j'aille, rencontrer des gens qui la connaissent, qui la jouent. Et du coup, tout de suite, ça facilite les rencontres. Et moi, ça m'offre des découvertes extraordinaires, souvent, que ce soit en Espagne, en Afrique, en Asie. Et si ce n'est pas des guitares, c'est un peu les cousins de la guitare, le wood, le sitar. Et tout ça m'influence beaucoup. Ouais.
Et comment la guitare que nous, on connaît, est perçue pour eux, pour ces autres musiciens que tu croises? Ils sont fascinés?
J'espère.
Pourquoi échangez-vous?
Non, j'espère que ça leur plaît. Non, après, cette guitare-ci, même si eux ne jouent pas forcément la guitare classique, elle est quand même connue et appréciée des guitaristes. Comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être la guitare la plus complexe, la plus riche, celle qui offre le plus de possibilités, celle aussi qui se suffit à elle-même du fait qu'elle est polyphonique, qu'elle est comme un piano. Donc, du coup, inévitablement, quand on aime la guitare, on ne peut qu'être touché par celle-ci, je crois.
Quand tu dis que tu as appris la guitare comme on apprend une langue, est-ce que c'est par imitation, comme on entend les parents parler? Est-ce que toi, tu as vu ton père jouer et tu essayais de reproduire la même chose? Ou est-ce qu'il t'a enseigné comme on apprend avec un premier cours, un deuxième, répétition, lecture de notes et compagnie?
C'était un peu un mélange des deux. Il m'a beaucoup appris en me montrant, mais aussi, il a eu envie de m'offrir l'éducation intellectuelle de la musique classique que lui n'avait pas eue. Je crois qu'il a un peu toujours regretté de ne pas avoir pu profiter de l'éducation dite intellectuelle qu'ont les musiciens classiques. Et donc, à mon petit frère et à moi, il n'a pas voulu faire cette erreur. Enfin, lui qualifiait ça d'une erreur, donc il n'a pas voulu faire cette erreur. Et donc, il nous a depuis toujours appris à le solfège, etc. Et puis, donc, après, quand j'ai poursuivi mes études au Conservatoire de Bordeaux, au Conservatoire supérieur de Paris, là, inévitablement, j'étais dans des études intellectuelles de musique classique très, très poussées. Et ça me plaisait aussi.
Vous alliez au concert ?
Oui, beaucoup. J'allais presque plus d'ailleurs à des concerts non classiques que classiques, mais j'allais aux deux et j'aimais encore ces mélanges et j'aimais cette idée de me dire qu'il n'y avait pas de frontières. Et quand j'allais au concert, il y avait des choses même extra-musicales qui me plaisaient beaucoup. J'aimais analyser les choses. Par exemple, j'étais parfois frustré enfant quand j'allais à des concerts de musique classique et j'avais l'impression, c'est pas toujours le cas, mais quand même souvent, que l'on a ce sentiment d'aller au musée, on est face à un très beau tableau, mais il n'y a pas d'interactivité. Le lendemain, j'allais à un concert de rock, j'avais l'impression que plus je sautais en l'air, plus je criais, plus le chanteur allait nous offrir de l'énergie. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, par exemple, c'est des petites choses qui moi, m'ont un peu nourri mon jeu de guitariste classique. Je suis très à l'écoute de la réception du public, de l'acoustique de la salle, de ce très beau lieu au cœur de Bordeaux. Tout ça me nourrit. Et de cette manière, chaque concert... égoïstement pour moi et différent de la veille au lendemain.
Quand tu passes au conservatoire à Bordeaux et après à Paris, c'est trois éducations différentes après ton père où il y a une vraie continuité? Parce que quand on passe du free jazz au conservatoire de Paris, ça doit être un peu...
Oui, 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 mais j'ai toujours vécu ça comme une continuité et des choses qui s'additionnaient. J'ai eu plusieurs professeurs en plus de mon père. Il y a eu Olivier Chassin, qui est professeur au Conservatoire de Bordeaux et aussi au Conservatoire de Paris, qui lui avait une approche très intellectuelle de la musique, avec toujours des explications, des points d'histoire, toujours des choses très intéressantes à nous dire. Et j'avais un autre professeur aussi qui s'appelle Judicaël Perroa, qui lui avait une approche très technique de la guitare, après un rapport sportif à l'instrument. Et donc finalement, j'ai toujours trouvé un mélange et essayé de prendre un peu le meilleur de chacun.
Toi, tu avais ce côté un peu sportif dans la compétition.
Oui, j'aime... Mon quotidien est guidé par l'amusement. J'aime jouer à la vie. Et du coup, j'aimais jouer de la guitare, dans le sens jouer de la musique, mais aussi jouer avec mes camarades. C'est pour ça aussi que tous ces concours internationaux que j'ai passés plus jeune, j'ai eu un tel plaisir à y participer, parce que j'avais l'impression d'aller faire un match de foot avec mes amis à Lisbonne, puis le lendemain à Vienne. Et voilà, je jouais contre eux, mais surtout avec eux.
Alors après avoir gagné tous ces concours, je crois que tu bats les records, tu es peut-être dans le livre des records à force de tous ces concours. Gagner. Tu pars pour une tournée sans fin, c'est comme ça qu'après tu l'as appelé, dans des pays. Alors, comment tu arrives dans tous ces pays avec les concours, hein, c'est ça?
Oui, au départ, en général, quand on passe un concours, quand on a la chance de le gagner, il y a un peu d'argent. Et puis, il y a surtout des beaux concerts et des tournées, des contrats avec des maisons de disques parfois. Et donc, voilà, surtout ces beaux concerts. Et donc, ayant gagné un certain nombre de prix, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs tournées qui se sont initiées. Et les concerts se passent bien, ça se développe. Et puis, et ça ne s'arrête plus.
Et c'est pour ça que pendant les premières années de ta carrière, tu as finalement moins joué en France qu'ailleurs dans le monde. Et... tu es revenu ponctuellement quand même.
Oui, clairement. Années. Parce que finalement, ces concours étaient vraiment un peu partout dans le monde. Il y en avait assez peu en France. Et donc, inévitablement, quand on gagnait un concours, mettons à San Francisco, on avait une tournée aux États-Unis. Et voilà, donc j'ai commencé à jouer beaucoup à l'étranger. Et puis, c'est vrai qu'à l'âge de 20 ans, je préférais les jouer à New York et Hong Kong plutôt qu'à Toulouse et Lille. Bien que j'aime beaucoup ces deux villes. Non, et donc je privilégiais plutôt les destinations lointaines et puis ça se faisait naturellement et donc j'en étais très heureux. Et puis c'est quelques années après, à l'âge de 25-26 ans, où j'ai commencé à regretter de ne pas jouer plus en France. Et donc du coup, j'ai essayé de rééquilibrer la balance, mais j'avais quelques années de retard par rapport à d'autres pays comme les États-Unis par exemple. Et du coup, peu à peu, les choses se rééquilibrent et puis maintenant je suis très heureux d'aller à Toulouse et Lille.
Il y a une différence de tradition de la place de la guitare aux États-Unis et en France, il y a peu de guitaristes qui tournent, en tout cas de guitaristes classiques. Comment ça se passe dans les autres pays ?
En effet, c'est étonnant parce qu'en France, la guitare classique a peut-être moins sa place dans les grandes programmations, dans les grandes salles de musique classique, alors que l'école française de la guitare est l'une des plus brillantes au monde.
Ça veut dire qu'on a les meilleurs professeurs, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il y a de très grands professeurs, ça veut dire qu'il y a une vision de la musique assez juste, ça veut dire qu'il y a un bel équilibre entre l'apprentissage technique de l'instrument intellectuel et puis aussi favoriser la créativité des étudiants. Je donne beaucoup de masterclass de plus en plus et donc j'ai la chance d'avoir... la possibilité d'écouter un peu l'élite des jeunes guitaristes dans chacun des pays. Et c'est vrai que, bon, sans vouloir caricaturer, mais dans les caricatures, il y a des choses vraies aussi. Et par exemple, en Russie ou dans les pays de l'Est ou en Chine, il y a des élèves qui ont 13-14 ans qui jouent avec une technique incroyable et une perfection de sportive, mais où finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, pour le coup, par exemple, quand je vais au Brésil ou en Amérique du Sud, il y a une grande créativité, mais ce n'est pas forcément cadré. Et là encore, je caricature, mais c'est assez vrai. Alors qu'en France, je trouve que le mélange des deux est très réussi.
Et donc, tu t'es arrivé, parce que finalement, en Chine, il y a eu même un DVD de gens qui t'ont filmé quand tu étais en Chine en tournée. tu joues devant des milliers de personnes, ce qui serait, c'est quand même assez rare ici en France.
Oui, après c'est vrai que voilà, ces zones géographiques ont des manières de voir la musique différemment. Par exemple, aux États-Unis, peut-être que les gens sont plus curieux et plus, enfin, je dis les gens, c'est plutôt les programmateurs, sont plus curieux et plus ouverts à faire découvrir de nouvelles choses, des petites anecdotes. Par exemple, quand j'envoie des programmes de concert, quand on me demande d'envoyer prévenir ce que je vais jouer, quand c'est des pièces inconnues que j'envoie aux États-Unis ou en Chine, les gens disent ah super, on est très curieux de découvrir ça. Alors qu'en France, parfois, on me dit ah c'est dommage, il faudrait mettre un peu plus de musique connue. Donc voilà, peut-être que les États-Unis sont plus ouverts ou l'Amérique en général. L'Asie, ils ont cette envie d'être tournés vers l'avenir. Je vais en Chine tous les ans depuis une dizaine d'années maintenant et je suis étonné à chaque fois que j'y retourne. J'ai l'impression qu'il s'est écoulé 10 ans. C'est une évolution absolument étonnante. Et donc, du coup, ils sont tournés vers l'avenir. Alors qu'en Europe, on a un patrimoine extraordinaire. Particulièrement, je crois, en France et en Italie, je trouve qu'on est... Enfin, moi, après, je n'ai pas la prétention de faire une étude. En tout cas, mon modeste avis est qu'en France et en Italie, nous sommes très proches et nous avons ce passé qui est tellement extraordinaire que du coup, il nous effraie à essayer de nouvelles choses.
Et d'ailleurs, tu es peut-être un des guitaristes français qui commande le plus d'œuvres, puisque tu demandes à des copains d'écrire pour toi, et des fois aussi des étrangers, pas forcément des compositeurs français. Ils t'envoient des partitions. Bonjour Thibaut, est-ce que tu veux jouer ça? Ou vous travaillez ensemble? Tu passes commande? Comment ça se passe?
Ça dépend, c'est un mélange des trois. J'ai la chance de recevoir beaucoup de partitions de compositeurs de partout. Je suis très heureux d'avoir cette chance. Mais c'est vrai que je crois beaucoup en la guitare du 21e siècle. Je pense que la guitare est un instrument, la guitare classique est un instrument moderne dans le monde de la musique classique. Si on compare avec le violon ou le piano, nous existons que depuis un peu plus d'un siècle. Il y a eu le grand répertoire espagnol très intéressant, etc. Mais je crois que la grande force de la guitare, c'est les musiques d'aujourd'hui. Et en tout cas, je crois en ça. Et ce que j'aime dans les compositeurs qui écrivent aujourd'hui pour la guitare classique, c'est qu'ils sont influencés de cette diversité que nous avons avec notre instrument. Ils aiment s'inspirer de Django Reinhardt, Jimi Hendrix, Paco de Lucía, etc. Et ça offre une musique classique d'aujourd'hui qui, moi, me plaît beaucoup.
Et alors, pour jouer devant des milliers de personnes, tu as fait trafiquer, on va le dire comme ça, une guitare classique, parce que d'habitude, une guitare n'a pas beaucoup de volume sonore. C'est aussi pour ça qu'en France, on va jouer devant 500 personnes. Mais toi, tu as trouvé le moyen de jouer devant des milliers de personnes en glissant un petit micro. Alors, ça a l'air comme ça, le truc le plus facile du monde, mais je ne sais pas si ton luthier, ça fait quoi, 20 ans qu'il travaille à ce concept?
Oui, là, c'est toute une vie de recherche. Mais ça va aussi dans cet élan que j'ai envie de présenter une guitare du 21e siècle. Donc, j'aime jouer des pièces écrites aujourd'hui et j'aime revendiquer le fait que cette guitare classique est une évolution de la guitare classique et qu'elle propose quelque chose de nouveau. Donc, plus concrètement, en effet, c'est une guitare d'une fabrication parfaitement traditionnelle. On partage un peu cette même philosophie avec Jean-Luc Joie, donc ce luthier bordelais. Encore un bordelais, je suis sauvin. Mais je n'ai pas choisi ces guitares parce qu'il est bordelais, c'est parce que j'en ai pas rencontré de meilleur jusqu'à présent. Et donc, il aime, comme moi, la tradition, la fabrication artisanale de l'instrument. Il a étudié toute sa vie, il a fait des guitares en bois, il a travaillé, il a aimé cette fabrication artisanale, traditionnelle. Et en même temps, il a ce besoin, comme moi, de chercher, de faire évoluer autant que possible à sa manière, et moi à la mienne, la musique. Et donc, un peu sous ma pression ces derniers temps, que j'étais amené à jouer dans des salles plus grandes, j'étais confronté à ce problème de puissance. Et donc, je lui avais demandé si, par miracle, toi qui aimes faire des découvertes, chercheur fou, trouve une guitare qui chante fort. Et donc, il s'est associé avec des ingénieurs. Il a cherché tout ça pendant des années et des années. Et un jour, il m'a contacté. Il m'a dit, je pense avoir trouvé quelque chose. J'y suis venu. Et en effet, la guitare n'était absolument pas terminée. C'était un prototype étonnant qui était d'apparence moyenne, mais qui chantait fort et merveilleusement. Il avait réussi à créer une guitare avec ce système d'amplification, des micros microscopiques positionnés à des endroits stratégiques à l'intérieur de la guitare, qui envoie un système sans fil à une enceinte que lui-même a créée. Et donc, maintenant, la guitare peut avoir la puissance d'un piano à queue, tout en gardant le son qu'on aime de la guitare classique, ce son charnel, soyeux, séduisant. Et donc, il a réussi. Donc, j'avais ce prototype étonnant entre les mains et il m'a tellement plu que je suis parti avec donner mon concert à Dubaï avec cette guitare étonnante, mais qui chantait bien.
Oui, donc maintenant, tu vas te trimballer avec une petite enceinte.
Et maintenant, j'ai le package. Et voilà, mais ce qui me plaît, c'est que tout ce système qui est techniquement extrêmement élaboré, c'est un peu la pointe de la technologie, mais ça a été pensé avec un cerveau de monsieur qui travaille le bois depuis qu'il a 14 ans.
Et la chance aussi de pouvoir jouer dans des villes extraordinaires, ça doit avoir laissé quelques anecdotes croustillantes, parce que donc tu peux jouer dans des lieux en plein air. Alors là, tu as lancé le Magic Tour. Il faut que tu nous expliques ce que c'est que le Magic Tour.
Oui, je suis très heureux de ce projet qui débute samedi prochain. Ces dernières années, j'avais eu l'occasion à plusieurs reprises de jouer dans des lieux étonnants, symboliques, magiques, comme la cité interdite à Pékin ou un temple au Guatemala, au cœur du désert au Niger l'année dernière, éclairé par la lune et les étoiles. C'était des expériences absolument merveilleuses. Et donc, j'ai toujours aimé associer la guitare, la musique à un lieu, à un moment, une ambiance, pour essayer de proposer quelque chose qui soit au-delà d'un concert, qui soit un moment qu'on vive ensemble. Enfin, je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop ésotérique, mais en tout cas, j'aime beaucoup jouer dans des endroits étonnants. Et donc, on a voulu organiser une tournée clairement dans cette philosophie. Et donc, on est parti en quête de lieux aux quatre coins du monde qui sont symboliques pour différentes raisons. Donc, je vais jouer ces prochains mois dans un temple en Équateur, un palais aux portes du désert en Tunisie ou le palais de la paix à La Haye, une tour à Shanghai, que des lieux un peu fous qu'on va mettre en musique le temps d'une soirée. Et donc, on voulait initier cette tournée en France. Et je dînais, comme souvent, avec mon producteur à Paris. On cherchait un endroit pour initier cette tournée. Et on était en face de la tour Eiffel. Et je lui ai dit, mais le symbole de la France, c'est la tour Eiffel. Faisons-le là, le concert. C'est parti d'une blague. Et il a rendu cette blague réalité. Et le concert à la tour Eiffel sera donc samedi prochain. Il y a deux représentations. Parce que ce qui me plaît, c'est que c'est un lieu intime sur les toits de Paris. C'est au premier étage. Il y a un restaurant célèbre que certains connaissent peut-être, qui est le Jules Verne, qui est sur l'un des flancs de Notre-Dame. Et sur le flanc opposé, il y a un lieu étonnant créé par deux architectes illuminés, tout en verre, hormis le sol, n'ayez crainte. Et donc, on se retrouve en intimité sur les toits de Paris, dans l'antre de la Tour Eiffel. Et donc, ça va être deux beaux concerts à 18h et 21h. J'ai hâte.
Alors, on a beaucoup parlé de ton boulot. On va parler un peu d'à côté. Alors, si vous, par hasard, vous étiez en train de vous balader à Lacanau mercredi, vous auriez vu Thibaut faire du surf. Alors, il a fait quand même moins 5. Hein. Il n'est pas un peu fou?
Je suis fou de surf, oui. J'ai cette passion j'aime beaucoup, beaucoup. Dès que je le peux, je pose ma guitare et je prends la planche. Oui, c'est quelque... On pourrait en parler pendant des heures, donc je ne commence pas.
Alors, c'est vrai que tu as eu une semaine assez intrépide, je trouve ça assez drôle, mais ça montre un peu, peut-être, donc mercredi, en fait, si tu es allé dans l'eau, je pense que tu aurais préféré aller dans une eau un peu plus chaude, c'était pour les besoins d'un tournage de Canal+, c'est ça ?
Oui, tout à fait, c'était pour, c'est une production anciennement de Canal+, mais aujourd'hui, c'est diffusé sur France 2.
Ah oui.
C'est la journaliste qui est Léa Salamé, qui présente le lundi soir plusieurs petits documentaires. C'est un document qui s'appelle Stupéfiant. Et donc, l'idée était qu'il me suive pour que je puisse me présenter à un public plus large, celui de la télé. Et donc, l'idée était de montrer les différentes facettes de ma vie. Et donc, nous avons parlé beaucoup de guitare et d'autres choses, et un peu de surf. Et comme la vie de la télé, c'est un speed terrible. Donc, nous avons dû faire tout ça en une journée. Et donc, nous n'avons pas eu le temps d'aller où l'eau était chaude. Et on est venu ici. Et c'était mercredi matin, il faisait froid.
Et tu as quand même surfé quelques vagues.
J'ai quand même surfé quelques vagues. Et je ne voulais pas mettre une cagoule parce que ce n'était pas très stylé. Et donc, du coup, j'ai eu très froid.
Et alors, à cette occasion, tu es retourné au Pingalan où tu vas jouer jeudi prochain, le 2 février.
Le 2 février, tout à fait. Et donc, voilà, dans cette journée Marathon, tout à fait, qui a débuté donc à la Cano. On est ensuite allé voir Jean-Luc Joie, dont nous parlions tout à l'heure, le créateur de ce bel instrument. Et on est aussi allé au Pingalan, où je vais jouer le 2 février. Je suis très heureux de ce beau concert qui s'annonce. Je n'étais pas retourné dans cette salle depuis des années. Ça m'a fait bizarre à l'époque où j'allais voir des concerts. J'allais voir des concerts à ce moment-là. Oui. Et donc voilà, je suis vraiment très content de revenir jouer à Bordeaux. C'est toujours quelque chose de particulier. Il y a ma famille, il y a mes amis, il y a des gens qui me suivent depuis mes premières notes. Et donc, c'est toujours un grand moment d'émotion. Je suis très impatient.
Il y a quelques années aussi, tu avais joué avec, je crois, une centaine de jeunes guitaristes que tu avais réunis autour d'une seule pièce.
Oui, c'était je célébrais ce soir-là mes 10 ans de tournée. C'était au Fémina, juste à côté. Et donc, je donnais un concert. Et il y avait également, pour l'occasion, on avait envie de célébrer la guitare. Et donc, on avait rassemblé 100 guitaristes, les 100 guitares de Bordeaux. Et donc, des musiciens qui viennent de différents mondes. Il y avait des guitaristes classiques, mais aussi de jazz. Il y avait des jeunes étudiants, des gens plus avancés. C'était l'idée de célébrer la guitare dans toute sa diversité. Et c'était une composition d'un ami new-yorkais qui avait appelé ça From Brooklyn to Bordeaux. Et c'était dirigé par un cher ami, bordelais aussi, chef d'orchestre et pianiste, qui s'appelle Jonathan Raspien-Jas. Et donc, on avait fait cette belle soirée au Fémina.
Tu es un chef de file. Tu es un maître maintenant. Tu donnes des masterclass. Tu composes. Tu fais composer pour toi. Ça, tu assumes.
Oui. Bah, je suis très heureux de ce qui se passe avec la guitare. Comme je disais tout à l'heure, j'aime jouer à la vie et donc je continue de beaucoup m'amuser. Et je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui viennent jouer avec moi.
Et alors demain, tu vas jouer avec orchestre. C'est assez rare que tu joues avec orchestre. Alors dans ton dernier disque, Vivaldi, tu joues avec l'Orchestre de Chambre de Paris. Oui. Là, demain, ce sera avec l'Orchestre Unisson à Arcachon.
Oui.
C'est un concert caritatif. C'est vrai que tu es très généreux envers la région. Et en général, tu aimes ces propositions. Tu acceptes pas mal de ce genre de propositions.
Tu n'es
T'es pas une diva.
Non, mais je fais souvent un peu au feeling quand la proposition me plaît, même si ce n'est pas toujours réfléchi, j'y vais. Et là, pour le coup, elle m'a beaucoup plu. Et quand j'y réfléchis, elle m'a d'autant plus plu. Et donc, c'est un concert demain soir à l'Olympia d'Arcachon. Donc, ce sera avec l'Orchestre Unisson, dirigé par Maria Luisa. Et ça va être un beau moment de musique qui est pour l'association d'une aventure qui récolte des fonds pour créer une école au Burkina Faso. Et donc, j'aurai le plaisir de participer un peu à cette belle soirée. Nous allons jouer deux concertos de Vivaldi, deux concertos qui figurent sur ce disque. Et je suis content.
Jouer avec orchestre, c'est plus difficile. Ce n'est pas forcément ton pied d'appel, j'ai l'impression.
C'est différent. Après, c'est vrai que j'ai une passion terrible pour le concert en solo. Je suis amoureux du tête-à-tête avec le public, de ce moment où le temps s'arrête un peu. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'unique, de magique. Jouer à plusieurs me plaît aussi. Le côté communication, communion m'intéresse. Mais c'est vrai que la magie du solo l'emporte dans mon cœur. Mais cela dit, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à réaliser ce disque. Donc, c'est avec l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Julien Masmondet, un jeune chef d'orchestre brillant et dynamique. Et donc, on a enregistré ces concertos de Vivaldi à la Philharmonie. C'était une bien belle expérience. Et ça m'a rappelé à quel point j'aimais aussi jouer avec orchestre. J'ai eu plusieurs expériences par le passé et j'espère en avoir de nombreuses encore à venir. Ce qui sera d'ailleurs le cas avec l'Orchestre de Bordeaux. Je jouerai dans longtemps, je crois que c'est en juillet 2018, le très beau concerto d'Aranjuez, et ce sera à l'Auditorium.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compositions, il faut dire, pour guitare et orchestre.
Il y en a, il y en a quand même. Il y a le plus connu, donc Concerto d'Aranjuez, mais il y a d'autres très belles pièces. Et il y en a très belles pièces du passé, mais il y en a aussi beaucoup qui sont écrites aujourd'hui. C'est vrai que il y a toujours eu ce problème de puissance de la guitare. Finalement, selon moi, ça ne faisait pas grand sens de jouer avec orchestre en tant que soliste, alors qu'on se devait de lider cette masse merveilleuse de musique. Comment pouvoir lider si on ne nous entend pas? Donc, il y a toujours eu ce paradoxe. C'est pour ça aussi que peut-être que les orchestres n'étaient pas tellement heureux d'accueillir un guitariste, parce que c'était toujours le sujet à problème. Donc, aujourd'hui, il y a l'amplification, mais ça ne marchait pas très bien, etc. Et donc, ils ont eu beaucoup d'expériences malheureuses, ce qui fait que ça se voit peu. Mais maintenant que j'ai cette guitare du 21e siècle, toutes les fois où j'ai pu jouer avec orchestre, ça a été d'un confort absolu. Pour la première fois de sa vie, le contrebassiste entendait la guitare. Génial. Et donc, du coup, les musiciens ont pris beaucoup de plaisir à cette nouvelle expérience. Et là, pour le coup, un concerto pour guitare fait sens.
Je sais que tu vas aussi jouer avec en musique de chambre, notamment aux Victoires de la musique, c'est-à-dire la veille de ta venue au Pingalant. Oui. Quelle semaine, 15 prochains jours, c'est terrible. Et les Victoires de la musique, tu parlais avec de ton envie de jouer de la guitare devant le plus grand nombre d'auditeurs possible, de toucher au-delà d'un premier cercle. Tu penses que ça vient de ces concerts de rock?
Oui, clairement, je pense que ça vient du début. C'était aussi le souhait qu'avait mon père, tout mon entourage familial. Il pensait la musique pour tous. Ça ne veut pas dire rabaisser l'exigence, mais plutôt essayer d'accueillir les gens. Moi, je crois que la musique classique peut toucher tout le monde. En tout cas, je la pense vraiment comme ça. Et donc, j'ai ce besoin presque d'aller vers le monde. J'ai plusieurs fois ces derniers temps, par exemple, j'ai eu l'occasion de jouer à des émissions de télé de grande écoute, comme par exemple chez Yann Barthès, etc., et d'avoir accès à jouer au quotidien. J'ai aussi présenté la météo.
De Lacano. Hein.
Une belle blague. J'ai une grande fierté à me dire que ces notes peuvent toucher tout le monde. Et en effet, de pouvoir jouer cette année aux Victoires de la musique va tout à fait dans ce sens.
Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci.